Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. À la une, le roi du Maroc et sa famille dans le viseur de leur propre service de renseignement. Nouvelle révélation choc sur l'affaire Pegasus. Explication dès le début de ce journal. Là où il y aura passe sanitaire, le masque ne sera plus forcément obligatoire. Précision du gouvernement ce matin. Incompréhension de certains scientifiques. À la veille de l'entrée en vigueur de cette mesure dans les cinémas, les théâtres ou encore les zoos, nous serons en Normandie. Dans ce journal également, un commissaire de police mis en examen dans l'affaire Steve à Nantes, la Belgique en deuil national après les inondations meurtrières, et Jeff Bezos qui s'envole à son tour vers l'espace cet après-midi.
France Inter.
Des journalistes, des opposants politiques, c'était jusqu'à maintenant les cibles connues de Pegasus, ce logiciel espion qui s'infiltre dans les téléphones. France Inter vous dévoile depuis dimanche les révélations du consortium international de journalistes sur ce cyberespionnage. Eh bien, on franchit un nouveau cap aujourd'hui. Bonjour Jacques Monin.
Bonjour.
Chef de la cellule investigation de Radio France qui fait partie du consortium. On apprend donc qu'au Maroc, cette surveillance va très loin. La famille royale et même le roi en personne sont dans les radars de leur propre service de renseignement.
Bah effectivement, lorsqu'on regarde qui figure dans la liste des cibles, on trouve d'abord l'épouse du roi, Salma Benhami. C'est la mère des deux héritiers du trône et elle apparaît en fait sur cette liste lorsqu'une crise éclate dans le couple. Début 2018, on sait qu'ils divorceront ensuite. Parmi les cibles également, celui qu'on appelle le prince rouge, Moulay Hicham, c'est un cousin du roi qui est connu pour ses positions critiques envers le régime. On a visiblement ciblé là tout son entourage, puisque figure aussi dans la liste le numéro de son épouse, de ses deux filles, de son frère et même d'un exploitant d'une ferme qu'il possède. Mais dans le radar des services, on trouve aussi Fouad Filali, qui est l'ancien gendre d'Hassan II et une partie de sa famille. Et puis on trouve le beau-père de Mohamed VI. C'est un homme qui avait été déchargé de ses fonctions par le roi en 2000 et dont on peut donc penser, a priori, qu'il se méfiait.
Mais le plus surprenant, donc, Jacques, c'est que le roi lui-même figure parmi les cibles.
Bah effectivement, le numéro personnel de Mohamed VI a été entré dans le listing du système qui permet, on le rappelle quand même, de prendre un contrôle absolu d'un téléphone portable. Et pas seulement lui, d'ailleurs, on y trouve aussi les numéros de son chambellan, de son secrétaire particulier, de trois autres membres de la famille royale. Il semble donc qu'on ait établi un filet de surveillance autour de lui. Et la question, bah, c'est pourquoi ? Ça paraît incongru. Le roi, méfiant de son entourage, a-t-il autorisé ses services à pratiquer une surveillance de sa propre famille, y compris donc de lui-même ? Ou est-ce que le tout-puissant patron des services de renseignement, Abdelatif Amouchi, s'est affranchi de sa tutelle ? Bah, ce qui se passera ou pas dans les jours qui viennent nous donnera peut-être un élément de réponse.
Merci Jacques Monin. L'affaire Pegasus, la justice s'en saisit après nos premières révélations sur l'espionnage de journalistes français par le Maroc toujours. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête, notamment pour atteinte à la vie privée ou encore interception de correspondance. Cela fait suite à des plaintes déposées par certaines de ses cibles, Mediapart et Le Canard Enchaîné. Validé hier en Conseil des ministres, le projet de loi sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants entame son parcours parlementaire cet après-midi en commission à l'Assemblée nationale. Mais sans attendre, dès demain, le pass s'appliquera dans les lieux de culture et de loisirs dès qu'ils accueillent plus de 50 personnes. Alors on parle là des cinémas, des salles de spectacle ou encore de sport. Le décret est paru ce matin au journal officiel avec un détail qui peut étonner à première vue en tout cas. Bonjour Cécilia Arbona.
Bonjour.
Dans ces lieux sous passe sanitaire, nous ne serons plus obligés de porter le masque. Décision risquée pour certains experts.
Et c'est ce qu'on peut lire, alinéa 4, article 1. Les obligations du port du masque ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux ou événements. Explication de texte dans la foulée ce matin du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL. Là où il y a passe sanitaire, ça veut dire qu'on est sûr que toutes les personnes qui entrent sont vaccinées complètement ou présentent un test très récent négatif. Mais cet assouplissement choque l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Elle était invitée de Karine Bécart ce matin sur Inter.
J'apprends avec stupeur qu'on n'aura plus besoin d'avoir le masque à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée, quoi. C'est plutôt à l'heure actuelle, dans l'état où on est, il faudrait avoir ceinture et bretelles pour essayer de combattre cette épidémie et pas enlever certaines mesures quand on met en place d'autres.
Mais vous me surprenez, il faut qu'on présente un pass sanitaire pour rentrer au cinéma, mais après on n'a plus besoin de porter le masque ?
Ben, c'est ce que dit le décret de ce matin.
Et c'est effectivement ce qu'on a lu aussi. Dominique Costagliola dit qu'il est trop tôt pour ôter une protection essentielle, le masque, alors que la quatrième vague de l'épidémie est là. là, autre paradoxe. Cet allègement autorisé pour le public ne concerne pas les salariés des lieux qui sont fréquentés, car en entreprise, le port du masque reste la règle. Et il faut savoir qu'à l'échelle d'un département, cette règle pourra fluctuer. Un préfet pourra durcir les consignes si les circonstances le justifient.
Cécilia Arbona, merci Cécilia. Et pour ceux qui ne sont pas encore complètement vaccinés ou qui ne veulent pas se faire tester, c'est donc le dernier jour pour pouvoir accéder à certains de ces lieux. Alors forcément, c'est un peu le rush, comme au zoo de Jurcan, en Normandie, Lynn Chopin.
Des vacanciers, mais aussi des habitués de la région. Il y a du monde dans les allées du parc. Émilie, 37 ans, est venue avec ses deux enfants. Originaire de Cherbourg, elle passe quelques jours dans le Calvados et l'arrivée du pass sanitaire a un peu bousculé ses plans.
On devait venir mercredi ou jeudi pour le visiter et puis du coup on a accéléré aujourd'hui. On a la première dose mais pas la deuxième.
Michael, lui, a ses deux doses. Le pass sanitaire n'a pas avancé sa visite mais il a quand même réfléchi avant de venir.
Je me suis posé la question pour mon fils qui a moins de 18 ans et qui n'est pas vacciné encore, qui fait bientôt sa première injection. Et puis finalement, effectivement, il n'a pas l'âge en toute façon de montrer patte blanche.
Ces derniers jours, le zoo a accueilli jusqu'à 2000 visiteurs quotidiennement. C'est 30% de plus qu'une journée classique. Une affluence due au beau temps, mais aussi à l'arrivée prochaine du pass sanitaire, confirme Mathieu Houry, le directeur du zoo.
On a pas mal de personnes qui nous le disent, qui disent qu'ils sont là tout de suite, avant justement que le pass sanitaire soit mis en place, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner. Ou parce qu'ils ne le souhaitent pas, donc ils profitent de dernière sortie.
Car dès demain, le zoo devra contrôler les passes sanitaires des visiteurs.
Lynn Chopin, France Bleu Normandie. Dès demain donc pour les zoos, les cinémas, les salles de sport. Ce sera un peu plus tard, début août, ce passe sanitaire pour les restaurants ou encore les centres commerciaux. Et c'est là que le bas blesse. Le Conseil d'État a émis pour eux de grosses réserves hier. Et ce qui s'annonce est inapplicable, préviennent déjà les responsables de ces centres commerciaux. Ils demandent donc au gouvernement d'y renoncer, Laurent Kramer.
Le gouvernement cherche-t-il à noyer le poisson sur les centres commerciaux désavoués par le Conseil d'État, estiment les professionnels du secteur. Le gouvernement cherche bel et bien une porte de sortie du cas par cas inapplicable dans les faits, soulignent les professionnels. Le gouvernement s'entête alors que le Conseil d'État souligne que le pass sanitaire n'est pas justifié pour accéder à un centre commercial. Le Conseil d'État va effectivement dans le sens de la ligne sanitaire défendue jusqu'ici par les professionnels des centres commerciaux. Une jauge sanitaire abaisser si nécessaire, le masque et le contrôle de l'air qui sont déjà en place. La question des contrôles systématiques ou aléatoires n'est pour autant pas tranchée. Au final, le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux sera supprimé ou totalement inapplicable, estiment les professionnels, qui ajoutent une saisine parlementaire du Conseil constitutionnel sera enclenchée si le gouvernement s'entêtait dans son projet de loi.
Laurent Kramer, service économie de France Inter. Beaucoup de questions encore donc, alors que la France est entrée dans la quatrième vague. Le gouvernement a lâché le mot. Tout le pays repasse au-dessus du seuil d'alerte de 50 pour 100 000 habitants. Et c'est bien plus dans certains départements. La Charente-Maritime, par exemple, où l'on est passé en une semaine de 14 à 145 cas pour 100 000. Le préfet serre la vis, retour du masque obligatoire en extérieur dans 45 communes touristiques, sur l'île de Ré, mais aussi à La Rochelle. La Rochelle, dont vous êtes la première adjointe au maire. Bonjour Catherine Léonidas.
Bonjour.
Alors vous confirmez, la situation sanitaire est devenue inquiétante, préoccupante ces derniers jours dans votre ville ?
Alors effectivement, c'est inquiétant dans la mesure où le taux d'incidence est passé rapidement de 9 début juillet à 145 actuellement. Donc de l'inquiétude, mais surtout nous voulons exercer de la vigilance. Je crois que les maîtres mots sont la vigilance, la responsabilité, la pédagogie et puis aussi il faudra aussi de la solidarité.
C'est allé très vite quand même ce rebond épidémique chez vous.
Effectivement, c'est allé très vite. Monsieur le maire, déjà la semaine dernière, avait émis l'idée du retour au masque. Effectivement, nous avons une forte augmentation de densité de population, parce que nous sommes un département touristique, une ville attractive. Donc, qui dit augmentation, dit voilà, il faut renforcer les mesures. Donc,
alors justement. Retour oui. du masque en extérieur depuis ce matin. Est-ce que les gens adhèrent ? Est-ce que la mesure est respectée dans ce que vous voyez là dans les rues de La Rochelle ?
Alors dans ce que j'ai vu ce matin, oui, c'est respecté. Bien sûr, il y a des récalcitrants, hein, il ne faut pas se cacher, mais c'est moi ce matin, j'ai beaucoup circulé à bicyclette dans la ville et j'ai vu des gens qui portaient le masque. Je crois que vraiment, c'est l'effort collectif qui va permettre de surmonter cette nouvelle vague. Et c'est tous ensemble que nous allons y parvenir en respectant bien sûr les gestes barrières, hein, qu'on ne doit absolument pas abandonner.
Mais est-ce que c'est un coup dur en pleine saison touristique, là, en plein été ?
Alors, disons que, évidemment, c'est une contrainte. C'est un peu compliqué, c'est la fermeture de quelques bars et restaurants parce que le personnel est touché. Donc ça, économiquement, c'est un peu compliqué pour ces structures-là. Ensuite, pour tout un chacun, je crois que c'est... Et il faut absolument mettre ce masque lorsque nous sommes nombreux, lorsque nous sommes dans des files d'attente, lorsque nous sommes au marché.
Le message est bien passé. Merci beaucoup Catherine Léonidas, première adjointe au maire de La Rochelle. Et chez nos voisins, voilà que le Royaume-Uni se convertit lui aussi au pass sanitaire. À partir de septembre, il faudra être complètement vacciné pour accéder là-bas aux boîtes de nuit ou à d'autres établissements accueillant beaucoup de monde. Le pass sanitaire, état des lieux ailleurs en Europe, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Il est 13h11 sur France Inter. Des traitements contre le cancer, eux-mêmes cancérogènes pour les soignants. L'alerte de l'ANSES ce matin sur ce qu'on appelle les médicaments cytostatiques. Ils sont utilisés pour des chimiothérapies et sont efficaces pour les patients, mais ils sont potentiellement dangereux pour ceux qui les soignent et qui manipulent ces substances. Près de 100 000 infirmières, aides-soignants ou encore médecins sont concernés en France. Alors l'Agence de sécurité sanitaire recommande d'inscrire officiellement ces substances sur la liste des produits cancérogènes et de protéger surtout ses personnels. C'est une première dans l'enquête sur la disparition et la mort de Steve Maya Canisso à Nantes en juin 2019. C'était le jour de la fête de la musique. Ce jeune homme avait chuté dans la Loire. Et bien, 2 ans après les faits, première mise en examen. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Mise en examen, en l'occurrence, du commissaire chargé du dispositif policier ce soir-là.
Oui, mise en examen pour homicide involontaire, une qualification qu'il conteste ce midi par la voix de son avocat. C'est ce commissaire divisionnaire qui a ordonné l'intervention sur les quais vers 4h du matin. Une opération de police qui s'est déroulée dans un nuage de gaz lacrymogène. Une dizaine de personnes étaient tombées à l'eau. Quelques mois après les faits, un rapport de l'inspection générale de l'administration a conclu que le policier avait manqué de discernement. Le directeur de la sécurité publique par intérim de l'époque vient lui d'être placé sous le statut de témoin assisté. D'autres convocations vont suivre d'ici septembre et pourrait aboutir à de nouvelles mises en examen. Citons par exemple la convocation du préfet de l'époque, de la maire de Nantes ou de son adjoint chargé de la sécurité sur les bords de Loire. Il y a peu, les enquêteurs ont réussi à récupérer des informations sur le téléphone portable de Steve Maya Canisso malgré les 5 semaines qu'il a passées dans l'eau. Elles ont confirmé que l'appareil a cessé d'émettre au moment où s'est déroulée l'intervention de police, accréditant la piste d'un lien entre sa chute dans la Loire et l'opération des forces de l'ordre.
Les précisions d'Ariane Grissel. Merci Ariane. Dans les montagnes de l'arrière-pays niçois, toujours aucune trace de l'homme recherché depuis dimanche à Gréolières. Soupçonné de féminicide, il est traqué par près de 200 gendarmes dans une zone très escarpée de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et les recherches pourraient encore durer car on compte dans le coin près d'une centaine de grottes. Une bascule culturelle pour le gouvernement, un texte très éloigné des objectifs climatiques pour les ONG. Le Parlement adopte définitivement cet après-midi la loi climat, en partie inspirée des propositions de la Convention citoyenne. Parmi ces mesures phares, la suppression des lignes aériennes intérieures quand il existe une alternative en train en moins de 2h30, ou encore l'interdiction de la location de logements dits passoires thermiques. Insuffisant donc selon les associations environnementales qui vont manifester cet après-midi aux abords de l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte, sur le climat, les perspectives très sombres de l'Agence internationale de l'énergie, les émissions mondiales de CO2, qui sont la première cause de réchauffement, devraient atteindre, selon l'agence, un niveau record d'ici à 2023. L'homme le plus riche de la planète va la quitter. Enfin, quelques minutes seulement, Jeff Bezos se lance à son tour dans le tourisme spatial aujourd'hui. Le fondateur d'Amazon doit décoller dans 2 heures maintenant à bord de la fusée de sa société Blue Origin. À ses côtés, 3 autres passagers, dont son frère. Mais Bezos n'est pas le premier. Il s'est fait damer le pion il y a 10 jours à peine par un autre milliardaire, Richard Branson. Alors Loïc Piala, qu'est-ce qui différencie ces deux projets ?
Richard Branson a été plus rapide, mais Jeff Bezos va aller plus haut, 100 km au-dessus de la surface terrestre contre 80. Pour le fondateur d'Amazon, il s'agira d'un lancement traditionnel, la fusée appelée New Shepard, en référence à Alan Shepard, le premier astronaute américain, décollera verticalement et déposera une capsule automatisée dans l'espace. L'approche de Virgin Galactic, la firme du milliardaire anglais, est différente. Un vaisseau contrôlé par deux pilotes est largué depuis un avion en haute altitude. Dans les deux cas, l'équipage n'a le droit qu'à quelques minutes en apesanteur. Virgin avait déjà procédé à plusieurs missions habitées avant celle de Branson. Blue Origin a réalisé une quinzaine de tests, mais sans humains. Parmi les quatre personnes à bord, il y aura le premier passager payant. Au-delà d'une lubie de milliardaires, ces vols, pour Virgin comme Origin, cherchent à promouvoir le tourisme spatial. Le prix du billet n'est pas connu. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Branson il y a 10 jours, aujourd'hui Bezos, mais aussi bientôt Elon Musk qui prévoit lui pour septembre une expédition en orbite uniquement composée de civils. Au moins 31 morts selon un bilan encore provisoire. La Belgique se recueille aujourd'hui en hommage aux victimes des inondations dévastatrices de la semaine dernière. Journée de deuil national. À midi, le pays s'est arrêté pour une minute de silence. Angélique Boin sur place.
Les sirènes de police, des casernes de pompiers, les cloches ont sonné à midi une. La minute de silence a ensuite été observée partout dans les bâtiments publics, mais aussi dans les transports en commun de la capitale, avec les bus, tramways, métro à l'arrêt. Ce moment est important, dit Joséphine.
Montrer qu'on est là avec eux, qu'ils sont pas seuls, ça me fait très mal pour eux. Incroyable, incroyable. J'ai jamais pensé que ça est vrai en Belgique, jamais.
Cathy, venue faire du shopping rue Neuve avec sa sœur, s'est elle aussi figée un instant. Elle est bouleversée.
Il faut penser à tous ceux qui ont tout perdu et surtout penser à tous ces disparus qu'on n'a pas encore retrouvés. Hein. Non, ça nous touche vraiment beaucoup. Hein. On en avait déjà assez avec le Covid et là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Hein. Tous ces problèmes climatiques, c'est quand même quelque chose de terrible et on a joué avec la nature et aujourd'hui on en paie les conséquences et ça c'est vraiment dommage quoi.
L'église Notre-Dame du Finistère a gardé ses portes grandes ouvertes. Elle donne sur cette avenue piétonne très fréquentée. Seul ou en groupe, des passants y entrent se recueillir. Cette solidarité, cette émotion nous touche, dit une jeune femme dont les parents ont été inondés. Nous sommes à la veille de la fête nationale en Belgique, jour de recueillement. Le bal populaire a été annulé. Demain, le défilé est maintenu mais allégé pour rendre hommage notamment aux services de secours encore déployés. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Trois roquettes qui tombent près du palais présidentiel de Kaboul, juste avant un discours du président à l'occasion de l'Aïd, la fête du sacrifice. C'était tôt ce matin, apparemment pas de victimes. Mais c'est un nouveau signe de la tension croissante en Afghanistan, où les talibans ne cessent de gagner du terrain. Au Mali, c'est aussi pendant ce rite de l'Aïd que deux personnes ont tenté ce matin de poignarder le président de transition, le colonel Goïta. Mais selon les premières informations, il est sain et sauf. Surveillez votre compte bancaire, une bonne nouvelle vous y attend peut-être. Le fisc commence aujourd'hui à rembourser les trop perçus. Cela concerne les foyers qui ont payé plus d'impôts sur le revenu que ce qu'ils devaient parce que leur revenu a baissé entre-temps ou en raison de crédits d'impôts pour des dons aux associations, par exemple. 30 000 spectateurs chaque jour, habituellement. Un gros millier seulement cette année. Ce sont des Eurockéennes de Belfort en format très allégé qui s'ouvrent aujourd'hui, Covid oblige. Des mini Eurock avec 30 artistes attendus jusqu'à samedi. Flora Midi a assisté au tout dernier préparatif.
Avant que la musique n'envahisse la presqu'île du Malsaucy, c'est le ronron des camions et des machines qui dominent.
Restez pour en dessous.
Des Eurock complètement repensés, passe sanitaire imposé, moins de festivaliers, moins d'artistes, mais surtout un site différent. Kathleen, chargée de la communication.
Le site, en fait, là, il est totalement revisité, puisqu'on n'est que sur une toute petite partie des Eurockéennes à la base. Et en fait, cette partie-là, quand c'est les Eurockéennes normales, elle n'est pas ouverte au public, cette partie-là.
Une formule réduite, avec autant de travail en amont, selon Mickaël, le technicien son.
Ça oblige à réfléchir différemment, parce qu'on a une scène sur l'eau. Il faut calculer les charges, les poids, pour ne pas qu'elle coule. Moins de gens, moins de bruit, moins d'ambiance.
Mais la magie des Eurock...
Elle est toujours là. On ne peut pas enlever la magie des Eurockéennes.
La même magie, avec quelques nouveautés, selon Romuald, le régisseur.
C'est dit comme c'est plus petit, on a pu profiter de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Fabriquer nos bars nous-mêmes, des bars en bois pour rester dans l'ambiance. J'aime bien rester dans le végétal ici, parce que... Est-ce que vous êtes tout le temps ?
Au gré du vent, c'est le van de restauration de Coralie. Elle vient juste d'arriver sur site.
À l'instant même, et j'arrive avec le grand soleil.
Il n'y a qu'un mot, on est heureux, c'est tout.
On va manger ?
Des burgers frites, cuits de façon belge.
Voilà pour le repas. Quant à la décoration, elle reste secrète. Les dernières pièces sont montées aujourd'hui, avant l'arrivée des 1000 premiers festivaliers.
Flora Midi, France Bleu, Belfort, Montbéliard, les Eurock miniatures. C'est donc à partir de 18h ce soir.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et encore une fois, soleil et chaleur au programme cet après-midi.
Oui, après-midi largement ensoleillé hein, sur l'ensemble du pays. Alors dans les plaines du sud-ouest, les entrées maritimes disparaissent, mais quelques plaques de nuages côtiers peuvent encore être observées sur le littoral entre les Landes et le Pays Basque. C'est d'ailleurs le cas en ce moment sur la plage de Mimizan. En Occitanie, le ciel va se voiler. Cet après-midi, on verra aussi quelques petits nuages bourgeonner sur le nord-ouest, la Corse et les Alpes. Les plages garderont un ciel tout bleu, mais de petites averses pourront se développer sur les hauteurs. Et puis attention sur les Pyrénées, l'après-midi sera émaillé d'averses localement orageuses. Les orages déborderont même vers l'Aude et le Tarn avant la fin d'après-midi. Et puis il va faire chaud, il fait même déjà chaud. Hein. La plupart des pays, des villes dépassent déjà les 30 degrés sur la moitié sud. Il fait aussi plus de 30 degrés au Sable d'Olonne et à Châteaulin sur le Finistère. Cet après-midi, prévoyez 25 à 33 degrés en général avec 29 degrés à Paris, 30 degrés à Lyon et Ajaccio. On attend même jusqu'à 36 degrés sur la Provence et le Languedoc.
Sébastien Léas de Météo France, merci.